Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous et surtout, bonne rentrée à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison pleine de découvertes Made in France, d'entrepreneurs talentueux, de parcours étonnants. Et cette année, nous mettrons l'accent également sur les changements de vie. Ces Français qui ont décidé de tout plaquer pour une nouvelle vie, souvent d'ailleurs dans le secteur de l'artisanat. Tout à l'heure, nous découvrirons le parcours de Amandine et Franz. Elle travaillait en mairie, lui était psychologue. Ils ont décidé de quitter leur métier respectif pour brasser de la bière du côté de Rochefort. Nous serons avec Amandine en deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, c'est la rentrée. Que diriez-vous d'en savoir davantage sur une école en ligne d'un nouveau genre? Ça vous intrigue? Eh bien, ça tombe bien, nous sommes avec Leïla Ancelin de Schooltopia.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Leïla.
Bonjour.
Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Alors Leïla, vous proposez une école en ligne que les enfants devraient adorer. Expliquez-nous le concept de Schooltopia et en quoi cette nouvelle approche que vous développez séduit les plus jeunes.
Alors Schooltopia, déjà, c'est une école en ligne ludique qui permet d'apprendre en s'amusant, notamment à travers des histoires et avec des personnages. Donc en fait, on couvre vraiment tout le collège de la 6e à la 3e en mathématiques. Et concrètement, c'est quoi le concept? Le concept, en fait, c'est tout simplement quand il y aura des cours avec donc l'histoire et les personnages, et nous aurons différents exercices QCM interactifs, et en fait, on va avoir envie d'aider les personnages, tout simplement, à avancer en faisant ces exercices, et donc en regardant également le cours, ça nous permet vraiment de pouvoir faire ces exercices, ces QCM, et avancer en fait dans l'histoire, et à la fois aussi sur le programme de l'éducation nationale, parce qu'on s'appuie sur le programme de l'éducation nationale, et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va avancer, et on va voir les personnages évoluer. Il faut savoir que les personnages, en fait, ont des stades de maturité en fonction du niveau. Donc, sixième, on est plutôt sur des petites aventures. Et puis, plus on monte dans les niveaux et plus les personnages, en fait, évoluent et mûrissent.
On travaille dans quel secteur? C'est les mathématiques, c'est ça?
Les mathématiques.
D'accord. C'est donc, c'est une manière de résoudre des problèmes ou de comprendre, justement, ces cours de mathématiques, mais par le jeu, quoi. Par des personnages auxquels on va s'attacher, c'est ça, et suivre leurs aventures.
Exactement, c'est exactement ça.
Et du coup, vous intégrez l'intelligence artificielle dans votre programme?
Exactement. En fait, le personnage principal qui s'appelle Toshi, qui est un petit robot qu'on suit à travers les aventures, en fait, on va discuter avec lui sous forme de chat, et puis il va pouvoir répondre aux questions. Donc par exemple, si je lui pose une question sur Toshi, est-ce que tu peux me dire ce que c'est les nombres entiers? Il va me donner une définition de cours, il va me reconduire vers les bons cours également, si je suis perdue, si je ne sais pas quoi réviser. Donc c'est vraiment très pratique, il va vraiment répondre comme un professeur.
En fait, c'est une méthode pour notamment ceux qui sont réfractaires aux chiffres et qui ont le sentiment de ne pas avoir, d'atome crochu, j'allais dire, avec les mathématiques.
C'est exactement ça. En fait, dans nos abonnés actuellement, on a vraiment tout type de profils. On a des profils qui ont des troubles comme la dyslexie, qui ont des troubles de concentration, mais aussi des personnes qui sont surdouées, qui sont en avance, qui sont nues à l'école, et aussi ceux qui sont en difficulté, qui ont beaucoup de lacunes et qui n'arrivent plus à suivre à l'école. Donc ça permet de redonner de nouveau le goût d'apprendre, en fait.
Alors j'étais très curieuse, je suis allée sur le site, j'ai vu, je le dis d'ailleurs à nos auditeurs de Sud Radio, qu'on avait la possibilité d'essayer gratuitement pour justement voir si on accroche justement à ce programme-là et à ces personnages ludiques. Comment vous faites pour développer toutes ces aventures? Vous travaillez comment? De quelle façon?
Alors en fait, on a une équipe d'une quinzaine de personnes, et dans l'équipe, il y a des personnes qui sont dédiées justement à concevoir ces histoires avec ces personnages. Notamment, on a aussi la BD. J'ai pas assez insisté dessus, mais en fait, on a une BD. C'est comme ça qu'on suit l'histoire et les personnages, et en même temps, c'est mélangé aux cours et aux exercices. Et en fait, dans cette BD, en fait, on a des illustrateurs qui sont dédiés qu'à ça. Et également, en fait, je travaille en collaboration avec un concepteur d'histoire qui m'aide à travailler sur toutes ces histoires-là, en fait.
Ah oui, donc il y a un professeur qui vous aide, il y a
des professeurs de mathématiques.
Pour le contenu et pour la forme, vous travaillez avec une équipe d'illustrateurs, pardon.
C'est ça, ouais. Et un concepteur d'histoire.
Parce qu'il faut constamment se renouveler.
Exactement. Il faut trouver des idées, il faut adapter également. Il y a des fois des chapitres qui peuvent paraître un peu compliqués, comme par exemple Théorème de Pythagore. Il faut trouver un contexte ludique vraiment pour enseigner ça. Et c'est pas toujours évident, mais on arrive toujours à trouver quelque chose.
Alors, ce qui est important de le dire ça aussi aux auditeurs de Sud Radio, c'est que tous vos cours sont basés sur les programmes de l'éducation nationale. Hein. C'est bien ça.
Hein. Exactement.
Mais alors, comment vous est venue cette idée? Vous étiez réfractaire aux chiffres, Leïla, quand vous étiez plus jeune?
Alors, moi, en fait, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai fait une licence de maths, physique, chimie. Donc, non,
oula,
dans les
pas
sciences.
Du tout. Vous étiez une surdouée des chiffres.
mais en fait, c'est plutôt qu'en fait, j'ai donné des cours très jeunes, donc à domicile, et j'en ai fait mon métier. Donc, j'ai pas voulu travailler dans l'éducation nationale. J'ai enseigné pendant 10 ans à domicile, également dans des prépas privés. Et aussi, j'ai fait des remplacements dans certaines écoles. Et en fait, le constat, je l'ai vu, c'est que bah, les maths, c'est toujours très, très, très compliqué, quoi. C'est pas évident. Et surtout, les intéressés, on a beau avoir les meilleures explications du monde, s'ils ne sont pas intéressés, s'ils ne sont pas engagés, en fait, l'apprentissage ne sert à rien.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que finalement, on n'utilise peut-être pas les bonnes méthodes? Vous savez, souvent, on dit qu'en France, on ne parle pas très bien anglais parce que justement, on n'a pas toujours la bonne méthode pour apprendre des langues aux enfants. On ne le fait peut-être pas de manière assez ludique. Est-ce que vous avez le sentiment que pour les mathématiques, c'est un peu pareil?
Oui, exactement. Je pense que c'est très mal enseigné et notamment, en fait, les méthodes classiques aujourd'hui ne marchent plus. Aussi, il faut savoir que la nouvelle génération aspire à autre chose, je pense. À de nouvelles méthodes et notamment comme bah, par exemple les jeux vidéo où le jeu a pris beaucoup de place dans les hobbies de ces ados, je pense que c'est bien de reprendre un peu cet aspect-là mais de l'adapter pour des cours. Ça peut vraiment donner envie, ça peut vraiment les engager en fait dans leur apprentissage.
C'est quelque chose que vous faisiez déjà justement dans vos cours privés avec quand vous aidiez des jeunes enfants dans leur apprentissage des mathématiques, dans votre approche déjà avec eux, vous essayez de trouver justement une façon assez ludique pour leur expliquer.
Bah justement, en fait, j'utilisais beaucoup de couleurs, beaucoup de schémas. Je voyais que ça marchait très bien. Parce que, en fait, dans le cours, c'est comme ça aujourd'hui. Hein. On met beaucoup de schémas, beaucoup de contexte. En fait, je donnais beaucoup de contexte. Alors, c'est pas des contextes avec des personnages, mais c'est des contextes plus de la vie quotidienne. Et surtout, en fait, j'avais tendance à placer des petites blagues par-ci par-là. Et c'est vrai que ça détendait l'atmosphère et l'élève avait vraiment envie d'en savoir plus, en tout cas.
Alors, Schooltopia existe depuis combien de temps?
Ça fait 1 an.
Hey, c'est tout récent. Alors, quel bilan vous dressez après 1 an?
Je pense que j'ai beaucoup appris, en tout cas. C'est très chouette de travailler avec une équipe pluridisciplinaire, que ce soit des illustrateurs, des concepteurs d'histoire, des professeurs. En fait, clairement, j'ai changé de métier. Maintenant, je suis plus dirigeante d'entreprise aujourd'hui que prof, mais disons que c'est sûr que ça me sert par rapport à ce qu'on fait et ça me permet de notamment d'avoir une expertise et vérifier la qualité de ce qu'on propose.
Eh bien, on souhaite longue vie à Schooltopia, hein, que vous continuez à vous développer. Et merci encore, Leïla Ancelin. Je rappelle que donc, vous êtes la fondatrice de Schooltopia. Merci de redonner le goût de l'apprentissage à nos enfants et d'aborder cette rentrée avec une approche plus divertissante. Merci pour cet éclairage et bonne journée à vous, Leïla.
Merci, au revoir.
Au revoir. On se quitte un court instant et on se retrouve juste après. Cette fois-ci, je vous emmène à Rochefort découvrir un couple qui a changé de vie pour la bière. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début d'émission, bonne rentrée à tous, aux parents comme aux enfants. Alors, cette année, en deuxième partie d'émission, nous mettrons régulièrement en avant des changements de vie, des trajectoires de vie étonnantes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un couple qui a complètement changé de vie pour la bière artisanale, pour brasser de la bière.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Amandine Ribes. Bonjour Amandine.
Bonjour Nathalie.
Alors je le disais, avec votre mari Franz, hein, vous avez complètement changé de vie pour la bière. Racontez-nous votre parcours, le secteur dans lequel vous étiez, ainsi que votre mari avant ce grand saut dans l'inconnu.
Tout à fait. Alors Franz, lui, était psychologue dans une institution pour les personnes en situation de handicap mental. Et moi, j'étais cadre à la sécurité sociale pour le monde agricole. Voilà.
Donc des secteurs qui n'ont absolument rien à voir avec la bière. Et alors vous avez décidé de vous mettre à brasser de la bière. Alors pourquoi la bière ?
Alors, mais au départ, bien évidemment, on avait une passion pour ce produit. On a découvert au fil de l'eau la bière artisanale et découvert ce monde qui est ouvert au champ des possibles avec une multitude de saveurs, de goûts en fonction du brasseur. Et puis, ça a été un déclic, c'est-à-dire que ça a été un long parcours de réflexion. On savait qu'on voulait qu'un jour on créerait notre entreprise. On avait la quarantaine passée et devant une vingtaine d'années professionnelles qui nous restaient encore à faire, on voulait évoluer, mais on ne savait pas vers quoi. Et c'est un peu de votre faute, Nathalie.
Comment ça ?
Et oui, c'est voilà. Alors pour nous, depuis le début, en fait, vous êtes notre marraine de cœur, parce qu'en fait, il y a 2 ans à peu près, donc on se rappelle de la date. C'était le 31 juillet 2020. Vous avez fait un reportage sur France 2 sur les changements de vie.
Oui, dans Télématin, c'est vrai.
Exactement. Et vous avez été interviewé, fait un reportage auprès d'une brasseuse à Bordeaux, puisqu'au départ, nous venons de la région bordelaise.
Qui cherchait un repreneur, je me rappelle, et c'était un grand changement de vie, effectivement.
Exactement. Et lorsqu'en fait, on a vu ce reportage, ça a été vraiment le déclic. On a dit, c'est ça, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, en fait, mais aussitôt le reportage visionné, on a été la rencontrer. C'est la petite Martiale à Bordeaux. Et là, lorsqu'on l'a rencontré, mais ça a confirmé, on a dit c'est ce qu'on veut faire. Et donc, mais de suite, on a acheté le matériel pour le brassage amateur. On a envahi notre maison de tout appareil dans la cuisine. Et puis, on a commencé à brasser. Et là, le chemin, on a suivi le chemin.
Mais voilà. Comment réagit votre entourage, vos parents, vos proches
Alors au départ l'enthousiasme et puis après un peu
l'inquiétude,
voilà, et puis en se disant mais attendez, qu'est-ce que vous voulez faire, surtout que nous ça impliquait, c'était vraiment un projet de vie familiale, puisque l'idée qui a parcouru le chemin, c'était de se dire on veut créer notre propre entreprise avec notre propre identité, et donc on va vendre la maison sur Bordeaux, on va partir en Charente-Maritime, la terre de nos enfants. Et puis, on va.
D'où le choix de Rochefort, alors ?
Exactement, Rochefort-sur-Mer, qui n'a plus de brasserie depuis une dizaine d'années. Changement de vie, c'était aussi une qualité de vie pour nous retrouver, loin des bouchons de la région bordelaise, qu'on affectionnait beaucoup. Mais c'était de se dire, voilà, on revient aux sources, on retrouve une qualité de vie avec nos enfants. On repart d'une page blanche.
Mais par quoi commence-t-on alors ? Parce que vous avez acheté une machine pour commencer à brasser, donc une petite machine dans votre cuisine avant de vous lancer. Mais on va quoi ? On va taper à la porte de la chambre des métiers de l'artisanat ? On va voir sa CCI ? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a l'idée ?
Exactement. Donc la première chose, ça a été en effet de se retourner vers la Chambre des métiers de La Rochelle pour avoir un accompagnement faire étape par étape, puisque c'est un long parcours, ça fait 2 ans. On mène tout de front, double vie. Pendant 1 an, on a monté un dossier de dispositif démissionnaire avec une étude de marché, etc. Donc on avait notre vie de cadre pendant la journée. Et puis le soir et la nuit, monter le dossier, donc ça a été faire une étude de marché, interroger les réseaux sociaux sur les besoins, sur ce qu'on pouvait faire, etc. Rencontrer un maximum de personnes, ce qui nous a porté très loin, puisque par contre nous avons rencontré un enthousiasme avec tous les acteurs de la création d'entreprise.
Donc ça vous a porté quoi, ça vous a conforté.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que tout le long, les gens nous ont accompagnés, nous ont donné des petits tuyaux, des petits coups de main. Par exemple, aussi, nous avons rencontré une graphiste extraordinaire qui nous a été recommandée par les réseaux et tout le monde croyait en notre projet.
Alors aujourd'hui, vous en êtes où ? Est-ce qu'il y a une marque ? Elle est déposée ? Vous en êtes où ? À quelle étape ?
Tout à fait. fait. Alors, la marque La Nacelle a été déposée. On a créé aussi notre marque. On a, ça y est, alors en plus, bon, on a eu des aléas avec certains fournisseurs, puisque notre fournisseur principal a mis la clé sous la porte hein, au moment de signer le bon de commande. Ça faisait un an qu'on travaillait avec lui, donc il a fallu tout remettre en place. Et puis, ben, la guerre en Ukraine est arrivée aussi.
Ah, mais oui, au c'est vrai.
Voilà, de passer commande. Donc, il a fallu revoir tous les fournisseurs, retravailler sur les prix, sur le projet. Et puis, ben, là, on a eu la banque qui nous a suivis. Et ça y est, nous avons reçu le matériel. Nous avons commencé à brasser. Donc, nous en sommes là au quatrième brassin. La bière fermente doucement dans nos cuves. Et nous espérons, donc, la mi-septembre, fin septembre, avoir les premières bières pour la commercialisation. Donc maintenant, là, le travail est axé sur la communication et la commercialisation de nos produits.
Alors, je me suis renseignée sur vous et j'ai appris qu'il y a une musique qui vous a accompagnée pendant toute cette période. Alors, on va l'écouter.
Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane.
Alors, Amandine Rive, expliquez-moi pourquoi cette chanson a été si importante pour vous dans votre parcours, chanson du génialissime Philippe Catherine.
Oui, alors mais vous voyez, vous êtes notre marraine de cœur et pour nous c'est notre parrain de cœur, même si on l'a jamais rencontré. J'ai essayé de trouver une adresse mais j'ai pas trouvé, donc on sait jamais si quelqu'un peut lui transmettre ce message. Mais pendant ces deux ans, voilà, qui ont été passionnantes et plein de travail, en fait, cette chanson au quotidien est devenue l'hymne de la famille, puisque pour nous c'est vraiment une ode à la liberté individuelle et un refus de se soumettre à ce qu'on nous dicte, en fait, et se dire, ben non, si on a un rêve, on peut l'atteindre, alors avec du travail, mais il faut suivre nos envies, et donc voilà, dès qu'on a un petit coup, parfois difficile, qui peut arriver...
On remet la musique. Laissez-moi manger la banane.
Exactement. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment notre chanson de cœur, et c'est l'hymne de l'entreprise.
La chanson de la liberté. Donc c'est une manière aussi de se créer des petits moments comme ça de reboost hein, pour se relancer, parce que vous l'avez bien dit, là vous êtes tombé d'un coup dans le monde de l'entrepreneuriat avec ses difficultés également, on le disait, avec la guerre en Ukraine, donc la difficulté avec vos fournisseurs. Du coup, là, la prochaine grande étape, c'est quoi pour vous hein?
Donc voilà, je parlais de la commercialisation, donc c'est trouver, donc là on va aller démarcher, c'est le côté beaucoup plus marketing, communication, et puis trouver en effet les distributeurs, les petits commerçants, voilà, qui voudront bien mettre en avant nos produits, puisque ce qui est important, c'est que nous, c'est vrai que c'était le volet qualitatif, donc on est sur une bière au maximum locale, au niveau des ingrédients, notamment au niveau des céréales, puisque c'est une malterie locale, et aussi on est parti sur une labellisation bio, donc que nous avons hein, depuis le mois d'août. Donc là maintenant, c'est vraiment prendre notre bâton de pèlerin et puis d'aller frapper aux portes pour trouver nos futurs partenaires.
Eh bien Amandine, France, on vous souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle vie, et surtout donnez-nous des nouvelles, parce que maintenant je me sens un peu responsable de ce changement de vie.
C'est de votre faute, Nathalie, ou c'est surtout grâce à vous, je pense.
Bon, et bien encore beaucoup de chance dans cette nouvelle vie, et grâce à vous, et bien Rochefort va retrouver un brasseur de qualité qui fera de la bonne bière artisanale. Bon courage à vous, Amandine, et merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci, Nathalie.
Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Et en cette rentrée, Thibaut s'est intéressé à un objet indispensable à tous ceux qui reprennent le chemin de l'école, le cartable. Et il a eu l'occasion de rencontrer les repreneurs d'une marque iconique.
Et oui Nathalie, je suis à Cesson-Sévigné, à côté de Rennes, et j'ai la chance d'être avec Christophe Rau, PDG de Tans, qui a repris cette fameuse marque, cette marque iconique française. C'est bien ça, Christophe ?
Alors, pas tout à fait. La marque, elle a été reprise par la société au sein de laquelle je travaille à la fin de l'année 2014. Et si on fait un petit retour en arrière un peu plus complet, elle a été lancée par la société Le Tanneur en 1978. Elle a connu un développement phénoménal tout au long des années 80. Puis après, elle a un peu disparu du scope, on va dire, des années 1990 jusqu'au milieu des années 2000. Et elle a été relancée au milieu des années 2000, en 2006.
Quels efforts il faut déployer pour faire renaître une belle marque comme ça, après quelques années de déshérence, comme vous avez dit tout à l'heure ?
Alors d'abord, il faut lui créer une identité à cette marque. Il faut lui donner non seulement une identité, mais des valeurs. Et les valeurs de la marque, il y en a plusieurs. D'abord, on a tout de suite choisi le côté éco-responsable. Alors évidemment, aujourd'hui, tout le monde en parle, etc. Mais quand la marque elle a été relancée il y a maintenant, on va dire, pratiquement 15 ans, je veux dire, on était très novateur. Ça a été extrêmement novateur de faire le choix de ne fabriquer les cartables TAMS qu'avec du polyester recyclé venu de bouteilles plastiques.
Grâce à vos efforts, TAMS a regagné des parts de marché. Vous vous situez où en ce moment ?
Alors en termes de cartables, on est archi-leader sur le marché français. C'est-à-dire là, on a, je ne peux pas vous dire exactement quelle est la part de marché détenue par la marque TAMS, mais elle est considérable. On est archi-leader. Le deuxième, il est... si je le dis, on va croire que je suis un peu arrogant, mais ils sont à des années-lumière... Ouais, ils sont à des années-lumière. C'est vraiment la marque iconique dans l'univers du cartable et donc dans l'univers du primaire.
Une marque est devenue patrimoniale ?
Exactement, c'est une marque qui est devenue patrimoniale, absolument.
Est-ce que vous aviez une relation particulière avec ces cartables ?
Moi, mon souvenir de TAMS, c'est le fameux jingle « Taton TAMS, Taton TAMS ».
Donc on est toujours à Cesson-Sévigné chez TAMS et on est dans le bureau de création et je suis devant un monticule de cartables, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et j'ai de la chance, je suis avec Anissa qui design, qui crée, qui imagine cette gamme. Alors est-ce qu'on peut prendre un cartable et le décrire pour les auditeurs ?
Bien sûr. Alors voilà le cartable, je vous le montre. Alors comme vous pouvez voir, il est renforcé de toutes parts. Si on commence par le dos, on peut voir un dos moussé avec des bretelles bien évidemment ergonomiques sur lesquelles on a mis des réfléchissants, puisque c'est un cartable bien évidemment qui doit répondre à des normes de sécurité. Donc vous avez des réfléchissants derrière, sur les côtés et devant. Si je vous le montre par l'avant, vous pouvez voir qu'il y a une ganse, c'est ce qui renforce ce cartable au niveau du rabat.
D'accord.
Nous avons également un fond rigide et renforcé, résistant à l'abrasion, qui est agrémenté de 4 coins, qui permet à ce cartable d'être véritablement résistant à l'usure pour les petits écoliers pleins d'énergie.
Alors ce cartable, comment il a évolué depuis 78, depuis la naissance de la marque ?
Alors la grande différence se fait notamment sur le poids, puisque à l'époque il pesait très très lourd. Aujourd'hui, on est sur des cartables qui pèsent moins d'un kilo. La grande différence se fait au niveau du poids.
Sur les matériaux dont on a parlé tout à l'heure.
Et exactement, sur les matériaux. Aujourd'hui, tous les cartables TAMS sont fabriqués à base de polyester recyclé. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et caractérise cette gamme. On travaille avec des spécialistes de cette matière-là.
Justement, est-ce que c'est compliqué de fabriquer un cartable TAMS ?
C'est très compliqué. Il y a énormément d'opérations. C'est un cartable qui a énormément de composants pour répondre justement aux exigences de sécurité et de robustesse, et il y a environ 150 opérations pour un cartable TAMS.
On va pas les lister toutes, mais par exemple, les opérations les plus importantes.
Alors vous avez énormément d'opérations en termes de surpiqûres, on a des surpiqûres de renfort, vous avez aussi des opérations au niveau du rivetage, puisqu'on met des rivets pour notamment maintenir la poignée, d'ailleurs une poignée qui est également renforcée. Vous avez énormément de piqûres et d'empiècements différents qui caractérisent le cartable TAMS et qui fait qu'il se différencie des autres.
Merci Anissa d'avoir levé le voile sur les secrets de fabrication des cartables TAMS. Nathalie, je vous dis à la semaine prochaine et je souhaite une très bonne rentrée à tous les écoliers.
Merci Thibault, oui, bonne rentrée à tous les élèves. Et c'est vrai que ce jingle Taton TAMS a fait remonter plein de souvenirs à tous ceux qui étaient scolarisés dans les années 80.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
On arrive à la fin de cette émission, merci à vous chers auditeurs et surtout bonne rentrée à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien, bon dimanche.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.